à l'écoute de RFI, 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 à Dakar, 13h30 à Washington.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité sur le continent. La première édition d'Afrique Soir vous est présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et vous le disiez, une émission largement consacrée à l'élection de Donald Trump. Son retour fracassant à la Maison-Blanche laisse le camp démocrate de Kamala Harris KO debout. Quelles conséquences pour l'Afrique? Comment réagissent les diasporas aux États-Unis? Que pensent également les Africains de la victoire de Donald Trump, dont l'un des slogans est l'Amérique d'abord? Nous appellerons le chercheur Pape Ibrahima Khan, spécialiste liste des questions internationales. Dans l'actualité encore, la République démocratique du Congo avec l'ouverture des États généraux de la justice. Le Mali, Amnesty International, confirme la mort de civils dans des frappes de drones de l'armée à Inadja Tafane dans la région de Tombouctou. L'hommage en Tunisie 10 ans après sa mort à l'intellectuel Abdelwahab Medeb, dont l'œuvre a tissé des liens entre l'Orient et l'Occident. Le football, 4e journée de la Ligue des Champions. Enfin, musique et le trio Soba, c'est le coup de cœur de Pierre Vallée. 8 ans après sa première victoire à la présidentielle, Donald Trump fait donc son grand retour à la Maison-Blanche en tant que 47e président des États-Unis. Les sondages avaient pourtant annoncé un scrutin très serré, mais c'est un véritable raz-de-marée. Le candidat républicain a douché les espoirs des démocrates incarnés par Kamala Harris. Les réactions à son élection affluent du monde entier. Des félicitations, par exemple, de la Chine, de la Russie ou encore d'Israël, mais aussi des inquiétudes exprimées notamment en Afrique ou par les diasporas. Écoutez le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique, Mamadou Dramé.
Et j'étais scotché devant la télé tout au long de la nuit, comme tant d'autres personnes, tant d'autres compatriotes d'ailleurs. Nous sommes préoccupés par la victoire de Donald Trump ce matin. Très inquiet des résultats. La réaction dans la diaspora africaine des États-Unis n'est tout de même pas surprenante. Elle est celle d'une consternation et d'une peur avérée. Tout le monde est choqué. L'effroi des uns et des autres pouvait se lire dans les textes messages que je recevais des migrants qui ont récemment traversé la frontière terrestre, me demandant quel sera leur sort face à l'élection de Donald Trump. Ma réponse est celle-ci. Nous, Association des Sénégalais d'Amérique, avec l'accréditation du ministère de la Justice des États-Unis qu'on a, nous allons faire tout notre possible pour défendre le droit dans ce pays.
Mamadou Dramé avec Wely Diallo. Alors, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite de nombreuses réactions en Afrique, y compris parmi les caricaturistes dans la presse congolaise. L'humoriste Cash revient sur cette élection de Trump, 8 ans après son accession à la présidence. Dans sa caricature, on voit Donald Trump avec une étoile de shérif enfonçant d'un coup de pied la porte de l'Union européenne et de l'OTAN, derrière laquelle sont tapis les dirigeants européens pétrifiés, cachés sous des tables. Et Donald Trump s'exclame « Bande de parasites, où en étions-nous ? » Alors pourquoi ce dessin ? Écoutez la réponse de son auteur, l'artiste Cash.
J'ai essayé de comprendre pourquoi il est mal aimé par la presse occidentale, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Les médias grand public les dépeignent vraiment comme le mal absolu. Je sais que ça ne fait pas vraiment l'affaire des dirigeants occidentaux. Ils ont beau envoyer des mots de félicitations, mais je sais qu'il y a un malaise. Ils ne voyaient pas de bon œil qu'il revienne. Ça n'a échappé à personne qui souhaitait voir Kamala Harris remplacer Joe Biden. C'est vrai qu'il est, il n'est pas conventionnel comme dirigeant. Il est incontrôlable et s'il répond pas au code qu'on a de président américain. C'est ce que je voulais ressortir, quoi. Et je sais, sur cette question, il avait déjà créé des frayeurs froides quand il avait dit qu'il voudrait que ses partenaires de l'OTAN mettent la main à la poche pour contribuer s'ils veulent être protégés. J'ai pensé à ça et alors je fais un décès rapide. À 10 minutes, j'avais fini.
Est-ce que c'est comme ça qu'il est perçu également dans votre pays, la République démocratique du Congo?
Je vais vous étonner. Je fais partie d'un groupe entre des caricaturistes de l'Afrique et généralement, la tendance, c'est ils sont plutôt pour Trump. Quoi. Ils voudraient que Trump gagne. Ça n'aura pas un impact vraiment sur notre vie, sur nos pays, mais juste s'il peut mettre mal à l'aise ceux qu'on considère comme nos bourreaux, ça ferait l'affaire. La tendance est pour Trump.
Voilà le dessinateur congolais Cash. Nous allons partir à présent en Centrafrique. Écoutez comment réagissent les Centrafricains à la victoire de Donald Trump. Rolf Steve Domialeux a recueilli des réactions d'habitants à Bangui.
Et je pense que c'est une victoire méritée de Donald Trump parce que il revient de loin. C'est un homme qui a été persécuté et qui a été tenté de mort. Cette victoire est logique parce que Donald Trump viendra rechanger les choses. Il va tenter de gérer cette problématique entre la Russie et l'Ukraine tout droit parce qu'il va tenter de rencontrer Poutine et Zelensky.
Moi, en tant que centrafricain, je n'attends rien de Donald Trump. Tout ce qui me plaît, c'est d'abord la vision qu'il porte et tout. Je suis un entrepreneur, donc quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est d'abord le capitalisme et tout.
Je suis vraiment déçu par rapport à la défaite de cette dame. C'est une dame qui s'est battue et j'apprécie sa politique, surtout le volet selon lequel elle a promis d'annuler la loi sur l'avortement. Bon, Donald Trump est aujourd'hui vainqueur. Mais Donald Trump, c'est quelqu'un qui, on ne peut pas le maîtriser.
Voilà des réactions recueillies à Bangui. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h36, en temps universel, je vous le disais. Une émission largement consacrée à la victoire de Donald Trump. Partons à présent au Soudan du Sud. À en croire les réactions exprimées sur les réseaux sociaux, beaucoup de Sud-Soudanais semblent très heureux de voir le dirigeant conservateur américain revenir au pouvoir. Et ce, alors que le plus jeune pays au monde entretient une relation unique avec les États-Unis, dont les administrations Bush et Obama avaient soutenu l'indépendance proclamée en 2011. Florence Mieto a rencontré ces Trumpistes du Soudan du Sud.
S'il vous dit d'arrêter de déconner et que vous continuez, il va vous punir.
Le style direct, voire autoritaire de Donald Trump plaît bien à Lul Hock, 28 ans, influenceur sud-soudanais qui se présente comme un commentateur politique, conservateur et panafricain. Hostile aux positions démocrates sur les droits des personnes LGBTQ, il apprécie les valeurs familiales traditionnelles portées par Donald Trump, mais aussi son mot d'ordre « America first », l'Amérique d'abord.
Je ne veux pas que les pouvoirs occidentaux viennent nous donner des ordres en tant qu'Africains. Donc mettre l'Amérique d'abord, ça veut dire ne pas imposer des idéologies occidentales sur le Soudan du Sud.
Daniel Ayuenjok, ingénieur de 28 ans, a aussi affiché son soutien à Donald Trump sur les réseaux sociaux, car il pense que son élection permettra de faire avancer le processus de paix sud-soudanais.
Avec cette élection, je suis optimiste. Je pense qu'une nouvelle dimension dans la relation entre les États-Unis et le Soudan du Sud va voir le jour, en particulier pour s'assurer que les dirigeants sud-soudanais assument leurs responsabilités et tiennent leur promesse d'organiser des élections.
Le jeune ingénieur regrette en outre l'approche de l'administration Biden face au conflit en Ukraine, à Gaza et au Liban, qu'il qualifie de froide et passive. Il voit dans l'élection de Donald Trump une opportunité pour la paix dans le monde. Florence Mieto, Juba, RFI.
Et le premier mandat de Donald Trump n'a pas laissé pourtant un souvenir impérissable en Afrique. Il n'y avait d'ailleurs effectué aucun voyage entre désintérêt et indifférence. Revenons sur ce premier mandat marqué par l'absence de politique africaine avec Alexandra Bonjean.
On se rappelle tous des propos désobligeants tenus par Donald Trump en 2018, qualifiant Haïti et les nations africaines de pays de merde, suscitant l'indignation sur le continent. Hormis cet incident, le président Trump a montré peu d'intérêt pour l'Afrique lors de son passage à la Maison-Blanche. Il n'y a effectué aucune visite officielle, contrairement à ses prédécesseurs. Barack Obama, lui, avait visité 7 pays africains lors de ses deux mandats. Les membres de l'administration Trump se sont également peu déplacés en Afrique. Son principal secrétaire d'État, Mike Pompeo, n'a effectué qu'un seul voyage tardif au Sénégal et en Éthiopie pour tenter de contrer la concurrence économique chinoise, selon les analystes politiques. Et pourtant, malgré ce manque d'intérêt affiché pour l'Afrique, la politique africaine de Donald Trump s'est largement inscrite dans la continuité de la politique étrangère américaine. Il a surtout été question de stimuler l'investissement et d'accentuer les échanges commerciaux. Continuité également sur le plan sécuritaire, l'administration Trump a maintenu son soutien aux pays luttant contre la menace terroriste, même si elle a annoncé une réduction de la présence militaire américaine sur le continent.
Nous sommes en ligne avec le chercheur Pape Ibrahima Kane, spécialiste des questions internationales. Bonsoir et merci d'être avec nous tout d'abord.
Bonsoir et merci de m'avoir invité à votre émission.
Alors on a entendu des réactions et notamment celle du président de l'Association des Sénégalais des États-Unis, Mamadou Dramé, qui se dit choqué par la victoire de Donald Trump. Est-ce que vous partagez son inquiétude? Comment réagissez-vous au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Êtes-vous surpris?
Non, pas du tout. Tout ce qui se passait cette semaine dernière montrait que Trump était vraiment dans la bonne direction et que surtout une partie de l'opinion américaine, compte tenu de ce qui se passe au Moyen-Orient, avait décidé de ne pas voter pour les démocrates. Donc, on savait que c'était presque plié.
Est-ce que vous comprenez ce revers, le fait que les minorités aient finalement voté Trump contre toute attente? Vous comprenez ça?
Non, mais vous savez, les États-Unis, il n'y a pas d'idéologie des gens pour voter. Tout se fait selon les intérêts les plus immédiats. Dans la crise au Moyen-Orient, beaucoup d'Arabes américains avaient décidé de ne pas voter pour le Parti démocratique compte tenu de l'attitude que ce parti a eue vis-à-vis des Palestiniens et des Libanais. Donc ça s'explique complètement. Maintenant, Trump va venir, mais on va voir aussi ce qu'il va faire. Et les Américains qui sont vraiment des gens libres choisissent et vont agir en conséquence.
Alors, on le sait, les positions de Donald Trump sur l'immigration sont très tranchées. Est-ce que vous craignez un durcissement sur cette question? Car nombreux sont les Africains qui rêvent de l'Eldorado d'Amérique.
Pas tout à fait. Vous savez, madame, Trump serait bien inspiré d'aller demander conseil aux Européens pour voir comment toutes les mesures que l'Europe a prises pendant des années ont produit dans la pratique. Absolument rien. Au contraire, aujourd'hui, ça ne fait que produire plus d'immigration irrégulière. Il y a tous les spécialistes de la migration vous diront que pour une bonne gestion de la migration, il faut qu'il y ait un dialogue entre l'état d'origine, l'état de destination et le migrant lui-même. Si cela n'est pas fait, on n'aura pas de solution. Il peut faire des actions d'éclat, fermer la frontière et autres, mais ça n'apportera pas grand-chose.
Alors, Pape Ibrahima Kane, on a parlé du premier mandat républicain marqué par un désintérêt manifeste pour l'Afrique. Cette élection et son retour à la Maison-Blanche peuvent avoir quelles conséquences pour le continent, selon vous?
Aucune, madame. Je pense que les Africains, aujourd'hui, sont dans une sorte d'expectative, je dirais même une sorte de curiosité, pour voir ce que Trump va leur dire, ce que Trump va leur proposer. Son premier mandat, comme vous l'avez dit, a été un mandat qui n'a eu aucun impact sur l'Afrique. Est-ce que ça a pesé sur la situation des Africains? Non. Maintenant, le monde est tellement multipolaire, avec beaucoup d'opportunités qui se présentent pour les Africains en Turquie, avec les BRICS et autres. Cela poussera beaucoup d'États. Si l'Amérique n'est pas dans une position de pouvoir les aider, d'aller voir ailleurs et de développer des relations. Et je pense que c'est l'Amérique qui en perdrait.
Donc pour vous, ça ne va rien changer, en fait?
Pas du tout. Ça ne va absolument rien changer. Et je pense que les États-Unis seraient même inspirés de travailler dans le sens de chercher à établir des relations avec les organisations telles que l'Union africaine pour que cela puisse faire évoluer un tout petit peu les rapports entre l'Amérique et l'Afrique. Sinon, pour les pays pris individuellement, ça ne change pas grand-chose.
Eh bien, je vous remercie, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Pape Ibrahima Kane, spécialiste des questions internationales. Vous écoutez Radio France Internationale, c'est Afrique Soir, il est 18h repassé de 44 minutes en temps universel.
Kinshasa, 105 FM.
En République démocratique du Congo, les autorités ont ouvert aujourd'hui les états généraux de la justice. Ils débutent après des mois de tensions entre le pouvoir judiciaire et le gouvernement, notamment sur la question brûlante de la surpopulation carcérale. Pourquoi la justice est-elle malade? C'est le thème de ces états généraux à Kinshasa, Pascal Moulégois.
Acteurs du corps judiciaire, du pouvoir exécutif et des organisations de la société civile, au total 3500 personnes sont réunies au centre des conférences de Kinshasa pour des discussions qui déboucheront sur des propositions de réformes. Nous participons pour veiller à la sauvegarde de l'indépendance du pouvoir judiciaire, lâche un syndicaliste. À la sortie du couloir réservé aux officiels, un haut magistrat estime pour sa part qu'il ne doit nullement être question d'inféoder le pouvoir judiciaire à l'exécutif. Lors des prises de parole, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a souhaité se placer comme un arbitre entre les acteurs de la justice. 7 Congolais sur 10 se disent insatisfaits de la manière dont la justice est administrée aujourd'hui, d'après Constant Mutamba, qui par ses états généraux entend administrer, je cite, une thérapie de choc sans complaisance et avec courage. Le président Félix Tshisekedi avait qualifié de malade la justice congolaise et une tache noire de son premier quinquennat. Il est temps de se ressaisir, a-t-il lancé, ciblant notamment la corruption qui gangrène l'appareil judiciaire. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Au Mali, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International confirme la mort de civils le 21 octobre dans des frappes de drones de l'armée malienne. Ces tirs ont ciblé la localité d'Inadja Tafane dans la région de Tombouctou. On parle à présent d'au moins 8 civils dont 6 enfants. Amnesty demande aux autorités maliennes de transition d'enquêter. David Bachet a joint Ousmane Diallo. Il est chercheur à Amnesty International sur les droits humains au Sahel.
Les témoignages que nous avons recueillis ainsi que les photos qui nous sont parvenues des victimes mortelles et blessées montrent que ces personnes-là étaient des civils et en particulier des enfants. Plusieurs enfants qui ont moins de 10 ans. Certains sont décédés sur le champ, d'autres sont décédés en cours d'évacuation vers Tombouctou. On parle de 3 frappes de drone en plein jour de marché, donc la foire hebdomadaire. Il n'y avait pas de cible djihadiste ou terroriste. Ce qui a été visé, c'était des motos, des véhicules qui appartenaient à des marchands qui ont été tués. Ce qui est encore plus incriminant pour l'État malien, c'est qu'il n'y a eu aucune communication gouvernementale. Donc ça montre encore une fois l'usage indiscriminé des drones et le manque de retenue et de précaution dans le ciblage qui est devenu une tendance au Mali au cours de ces 2 dernières années.
Ousmane Diallo, c'était il y a 10 ans, Abdelwahab Medeb, intellectuel tunisien, érudit, disent même certains, disparaissait. Et une décennie après sa mort, cette figure née à Tunis a continué de fasciner, car pendant de longues années, il a produit et présenté l'émission dédiée à la civilisation islamique sur les ondes de la radio française France Culture, avec toujours dans ses émissions, comme dans ses livres, ce souci de tisser des ponts entre Orient et Occident. Amira Souilem s'est rendue à l'hommage qui lui a été rendu hier à Tunis, à l'Institut français.
Les yeux pétillants et embués, Fawzi Echarfi, physicienne tunisienne, évoque son ami avec nostalgie.
Il était séduisant, intellectuellement, physiquement. C'était un ami agréable et surtout d'une très grande culture. On pouvait l'écouter pendant des heures. Mais quand même, c'était un homme tourmenté. Il était révolté, mais magnifiquement intelligent.
Le matin est un aigle.
Un intranquille lumineux. En guise d'hommage, des lectures de ces textes.
J'ai choisi un extrait du recueil « Les sentiers du monde ».
Science, histoire, philosophie, religion ou encore poésie, Abdelwahab Medeb s'est passionné pour toutes les disciplines. Un documentaire, le mettant en scène dans les ruelles de Tunis, a donné l'illusion qu'il était bien là ce soir-là.
Tout le passé se colorait d'une palette fraîche qui n'avait pas eu le temps de sécher. Je reconnaissais de très nombreux visages parmi les passants. Leur nom, leur origine, leur généalogie se déroulaient devant mes yeux.
À l'heure où les bombes déciment le Proche-Orient, région que Medeb affectionnait particulièrement, tous disaient hier soir que sa voix, plus que jamais, manquait. Amira Souilem, Tunis, RFI.
Et Abdelwahab Medeb, qui a vécu à Tunis et à Paris, aura également droit à un hommage parisien ce vendredi. Ce sera à la Maison de la Poésie. On passe au football et la suite de la 4e journée de la Ligue des Champions. Ce soir, 9 matchs au programme. Le FC Barcelone s'affirme peu à peu comme un prétendant sérieux après sa large victoire sur le Bayern Munich lors du dernier match, mais aussi son excellent début de saison en Liga. Les Catalans se déplacent sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Serbes affichent un 0 pointé. Ils vont tenter de décrocher leur premier point dans cette compétition et l'espoir repose sur l'avant-centre Chérif Diaye. L'international sénégalais est en grande forme. Victor Missistrano.
Il a trouvé sa bonne étoile. Chérif Ndiaye traverse à 28 ans la meilleure période de sa carrière, décisif à chacune de ses 3 dernières sorties. L'avant-centre de l'Étoile Rouge est le meilleur buteur du championnat de Serbie. 9 buts en 9 matchs. Le Sénégalais en avait inscrit 11 sur l'ensemble de l'exercice précédent. Une saison déjà très prometteuse pour ses débuts en Serbie, conclue par un titre de champion et une coupe nationale, mais aussi par une première convocation avec les Lions de la Teranga en mai dernier. Après la révélation, place à la confirmation pour le natif de Tiaroy, formé au HLM Grand Yov de Dakar et passé par la Croatie et la Turquie après avoir débuté en Europe en Belgique. Fin septembre, le numéro 9 s'est mis le public de l'Étoile Rouge dans la poche, un triplé face à l'ennemi juré, le Partizan, du jamais vu depuis 56 ans dans le brûlant et mythique derby de Belgrade. Ce soir, face à un Barça en pleine confiance, l'étoile rouge aura bien besoin de l'efficacité de Chérif Ndiaye pour décrocher ses tout premiers points dans cette Ligue des Champions.
FC Barcelone face à l'étoile rouge de Belgrade, coup d'envoi à 20h temps universel, autre affiche à la même heure. Le PSG reçoit l'Atlético Madrid, Bayern Munich face à Benfica, Sparta Prague contre Brest, Inter Milan opposé à Arsenal, Stuttgart face à l'Atalanta Bergame et enfin Feyenoord Rotterdam face à Salzbourg. Tous les résultats, ce sera dans la dernière édition d'Afrique Soir. Le savon est considéré aujourd'hui comme l'un des outils de lutte contre la malnutrition à Madagascar. Plusieurs organisations ont mis en place des ateliers pour enseigner la fabrication artisanale de ce produit d'hygiène. Et dans la région montagneuse de Bongoulave, plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition chronique. Reportage sur ces hautes terres centrales de la grande île, Sarah Teto.
Le poignet souple, Lantou mélange avec ardeur le liquide blanchâtre dans sa bassine. Progressivement, la pâte s'épaissit.
J'achète les ingrédients au marché à la ville, la soude et l'huile. Après, je rajoute l'eau et je fabrique le savon à la maison une fois par semaine. Une bassine pleine comme celle-là, ça me fait 60 morceaux. Je vends en priorité aux membres de notre association villageoise d'épargne et de crédit. Et s'il en reste, je peux aussi le vendre à d'autres villageois.
Si la vente de savon permet d'accroître les revenus de celles qui en fabriquent, elle a surtout permis de rendre plus accessible un produit d'hygiène de base, mais coûteux financièrement et en déplacement. Un produit pourtant essentiel dans la lutte contre la malnutrition.
La lutte contre la malnutrition, c'est évidemment d'avoir une alimentation équilibrée, mais la cause sous-jacente de la malnutrition, c'est aussi la question hygiène. Et ça, on le sait moins.
Reine Raswam Yerman en a coordonné les actions sur terrain dans la région Bongoulave pour Action contre la faim.
Même si on est bien nourri, le manque d'hygiène crée la dénutrition. Par exemple, l'effet de la diarrhée. Et donc, on promeut les techniques de lavage de mains au niveau des bénéficiaires.
Seulement, l'organisation s'est rendue compte que beaucoup de familles bénéficiaires des programmes de lutte contre la malnutrition n'adoptaient pas les comportements enseignés.
Pourquoi ça ? Parce qu'ils n'ont pas à disposition de savon. Les savons sont très chers, donc on leur a appris à fabriquer eux-mêmes leur propre savon.
Dans la commune rurale d'Ambararatabé ou Villante, où rares sont donc les habitants qui marchent encore trois longues heures pour rallier la ville la plus proche pour y acheter du savon. Plus loin, au pied des collines rases dans Kadinoun Sakai, Dina et sa fille, dites de jeunes agricultrices, se sont aussi lancées dans la production artisanale des précieuses barres blanches.
Avant, j'achetais du savon à chaque fois que j'avais du linge sale. Et quand je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas faire de lessive et le linge s'accumulait. Maintenant, plus besoin de se casser la tête pour savoir où et quand je vais trouver du savon. J'utilise le stock que je me suis fabriqué.
Et en plus, c'est trois fois plus rentable de le faire soi-même.
Oui, maintenant, on peut se laver les mains avant de préparer les aliments et on peut aussi dire aux enfants, filez, vous lavez les mains avec du savon avant de manger et ils y vont.
Petit changement pour grands effets. Le lavage des mains au savon a déjà démontré les impacts majeurs sur la santé publique partout dans le monde. Couplé à une alimentation plus nutritive, il contribue aujourd'hui à réduire la malnutrition sur l'île. Sarah Teto, de retour du Bongoulave, RFI.
RFI, à suivre ce soir sur votre radio. Accent d'Europe, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche est perçue comme un choc pour l'ensemble des pays européens. Mais en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a toujours montré son enthousiasme pour le candidat républicain. Dans son pays, un nouvel organe est chargé de traquer les financements étrangers de tous les titres de presse. Les médias hongrois sont inquiets, comme l'explique le rédacteur en chef d'un site d'investigation.
Tout le monde a peur. Il me demande, est-ce que ce n'est pas risqué de chercher des financements à l'étranger ? Personne ne veut devenir une cible.
La pression sur les médias en Hongrie, les réactions en Europe après la victoire de Donald Trump, c'est dans Accent d'Europe tout à l'heure à 20h10, temps universel et en podcast sur le site d'RFI et sur l'application Pure Radio. Au programme également, Couleur Tropicale, entretien avec le chanteur congolais Diesel Gucci qui était en concert au Bataclan à Paris le 1er novembre. Le 15 avril 2024, il a sorti son premier EP Oasis. Il sera accompagné de ses invités. On écoute le titre Juja.
Amoni bafasa mukalu chez Sobinango Toto Zolukamili Malebe Balabala Muse
lupe bale mikate kone balo mokaba voisin na midi bobe na moboka bayanke balingi Père Noël na kwenta parce que la rue ne fait pas de cadeau koyo kiba moko ba weche keza ba yupi
Et c'est le moment de retrouver Pierre Vallée pour notre rendez-vous musique. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et vous nous parlez ce soir d'un trio.
Oui, Soba, un trio donc formé par le chanteur-guitariste Moussa Koïta, l'harmoniciste Vincent Bucher et le batteur Émile Biayenda. Ces trois-là se sont rencontrés en jouant sur les projets des uns et des autres avant de se décider à former un groupe avec pour ambition de renouer le lien entre chanson mandingue et blues du Mississippi.
Alors, qui sont ces musiciens?
Alors, Moussa Koïta, c'est un guitariste chanteur burkinabé issu d'une longue lignée de griots de Bobo Dioulasso, mais qui a fait ses classes aussi dans les clubs parisiens du genre à improviser jusqu'au petit matin. Vincent Bucher, lui, c'est un harmoniciste avec un solide CV qui a joué avec ce qui se fait de mieux de bluesmen en France. Et pour compléter le trio, le batteur congolais Émile Biayenda qui, lui, a fait ses classes, entre autres, parmi les tambours de Brazza. Et le nom Soba n'est pas innocent, ça signifie grande maison en Dioula, et dans une langue un peu plus parlée, ça veut dire le lieu où toutes les rencontres sont possibles.
Un nouvel exemple d'artiste africain influencé par les Afro-Américains.
Oui, mais pas tout à fait. Par exemple, la rumba congolaise, ce sont des artistes congolais qui se sont inspirés de la musique cubaine et qui ont créé un style à part entière, qui, si j'ose dire, n'a presque plus rien à voir avec Cuba. Alors que là, avec Soba, c'est un peu différent. Les deux continents sont bien distincts dans leur musique. C'est un groupe qui joue du blues Mississippi, on l'a dit, mais chanté en mandingue.
Et ils viennent de sortir un disque.
Oui, le disque s'appelle Fiment, et le trio sera en concert à Paris mercredi prochain, le 13 novembre, au studio de l'Ermitage. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai deux invitations pour nos auditeurs parisiens. Et pour gagner, c'est très simple, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse suivante, relation.auditeur.rfi.fr au pluriel, je répète, relation avec un S, point auditeur avec un S, point RFI.fr. Et puis on restera évidemment très attentif aux dates africaines du groupe pour pouvoir vous faire gagner à l'occasion des places à ce moment-là. Et pour vous donner envie, je vous propose d'écouter tout de suite le morceau Fantaya.
Iwolo la Fantaya l'anteri, inna solo Fantaye, imma barakenteri, l'unno mi venimisa. Fantanya ranteri, inna soro fantanye, imma barakenteri, lundong ibeni misa. Sege koye kereye ya, nyani koye kereye. Sege koye kereye ya.
Le trio Soba, merci Pierre Vallée, merci à vous de nous avoir suivis à la réalisation ce soir. Alice Ménard, merci à toute l'équipe. Alexis Guilleux, Guillaume Bédrane, restez à l'écoute de la Radio du Monde et bonne soirée à vous.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, nous parlons des troubles 10.
Vendredi,
questions de femmes et de parents, accompagner le sommeil des enfants.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Coola, coola, coola.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Le show afro de la radio au cœur des musiques pop et du panafricanisme. La jeunesse nous parle dans la génération consciente, la libre antenne. Les invités s'y expriment et répondent à vos questions. Le show afro de la radio, c'est couleur tropicale, Africa et ses diasporas.
Couleur tropicale, Claudiciard.
S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.
Couleur tropicale, du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU. RFI.
Retrouvez RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile.